Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isabelle Bandry. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Fondatrice de Retency et je le rappelle, ancienne présidente de Yahoo France. À vos côtés, André Lescroup-Pietri. Bonjour André.
Salut Raphaël.
Président de JEDI, John European Disruptive Initiative, l'agence européenne de la disruption. Et face à vous, Thomas Grébin. Bonjour Thomas.
Bonjour Raphaël.
Responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI, auteur d'un rapport remarqué sur les protections à mettre en place en Europe face au surplus, aux surcapacités chinoises, mais pas que un rapport sur la souveraineté européenne en réalité. Alors, bon, je le disais en début d'émission, je voulais qu'on commence avant le G7, avant cette annonce dans la nuit de ce protocole de fin de conflit entre l'Iran et les États-Unis, qu'on parle d'abord de la décision d'Anthropic, anatomie d'une claque. J'ai envie de dire, je commence avec vous André Lezecou-Pietri, je rappelle donc que le gouvernement américain a contraint Anthropic à couper l'accès à ces deux dernières IA, Mythos 5 et Fable 5, qui venaient de sortir. Alors d'abord, on pensait qu'il comptait le réserver uniquement aux citoyens américains et finalement, c'est tout le monde qui a perdu cet accès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Alors, pour décrypter ça un tout petit peu, les modèles d'IA les plus avancés d'Anthropic, qui aujourd'hui considérés comme ceux qui font les modèles d'intelligence artificielle les plus avancés, ont été coupés par le gouvernement américain vendredi soir, sans aucune consultation de quiconque, de leurs alliés évidemment. Et Anthropic, sur ce, a décidé d'aller même plus loin en disant « bon, je vais couper ça à tout le monde, même aux citoyens américains. »
Parce qu'en réalité, ils sont pas capables de faire la différence, même dans leurs locaux, entre citoyens américains et non-américains.
Mais le vrai choc, c'est que... Alors, le vrai choc, pour ceux qui n'ont pas regardé ce qui se passe...
Oui, tout le monde est...
Vous savez, j'insiste souvent ici sur le fait que l'Europe est le continent de la surprise stratégique, la classe politique française et la classe de la surprise stratégique. Les gens qui s'en étonnent sont juste des gens qui n'ont pas fait leur travail aujourd'hui. Ah. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que la plupart de nos dirigeants... C'était gros comme une maison que ça allait arriver. On pourrait parler...
Ça ne vous a pas surpris, vous, cette décision ?
Non, parce que déjà il y a trois mois, le modèle Mythos avait été supprimé un petit peu en catastrophe. Pour une raison très spécifique, c'est qu'on se rendait compte que ce modèle permettait en fait de détecter des failles informatiques dans tous les systèmes, même celles qui existent depuis 10, 20, 30 ans, les plus dangereuses en quelque sorte. Donc toutes les institutions financières, juridiques, en fait tout ce qui est transactionnel était en fait en risque. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la créature est en train un petit peu d'échapper à ses auteurs, à ses créateurs. Et donc, pour la première fois, les États-Unis, qui étaient vraiment dans l'attitude du laisser-faire, ont décidé d'arrêter. Là, la décision a été plutôt saluée.
Oui.
C'est-à-dire que finalement, bon, il y avait un vrai risque. Là, aujourd'hui, l'IA entre de plein pied dans le monde géopolitique. Ce n'est plus un outil informatique, ce n'est plus une technologie, c'est aujourd'hui une arme. On pourrait parler, il y a eu en 57 le choc Sputnik pour les Américains qui, pour la première fois,
voyaient que
les Soviétiques arrivaient à mettre un satellite dans l'espace. C'était pas le satellite, c'était le fait que la fusée était ensuite ce qu'on appellerait un missile intercontinental et permettait d'atteindre les États-Unis. Aujourd'hui, les Européens découvrent avec stupeur que, en fait, tous leurs ingénieurs, leur société, leurs scientifiques travaillent sur les modèles les plus avancés et Washington peut débrancher ça d'une décision un vendredi soir.
C'était prévisible, Isabelle.
Oui, et c'était d'autant plus prévisible qu'effectivement la première décision avait été prise par les équipes d'Anthropic.
Hein, oui.
Lorsque vous évoquiez le fait que il y a un mois et demi, Mythos 5 avait été de la part des équipes d'Anthropic arrêté parce que effectivement, ils s'étaient rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de garde-fous pour éviter de mettre à plat tous les systèmes d'information, comme l'a très bien expliqué André. Mais là, ce qui est tout à fait étonnant, enfin pas étonnant, dans la continuité de la séquence Trump, le 2 juin, Trump a signé un décret autorisant l'administration à bloquer n'importe quel modèle d'IA dans le premier mois de son lancement s'il était réputé comme nuisant à la sécurité nationale.
Ça veut dire que Washington prend les pleins pouvoirs sur l'entreprise privée, là.
Une continuité de ce que veut l'administration Trump, c'est-à-dire une mainmise complète sur les modèles d'IA Et il l'utilise comme une arme de négociation. Je rappelle que Trump n'était pas censé venir il y a 2-3 jours à Évian, il n'était pas sûr de venir, oui. Il était en pleine négociation. Et depuis effectivement 2 jours, il bloque Mythos, il fait des annonces contre les GAFAM, donc il utilise ces outils comme véritablement un outil de pouvoir et de négociation.
Qui pourrait aller jusqu'à une nationalisation, c'est un scénario qui circule, et je crois qu'il est même porté par le patron d'Anthropique, Dario Amodei, d'une nationalisation d'ici 2 ans, c'était un peu sa prévision, des grandes boîtes de l'IA américaines.
Alors, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil. Il y avait déjà eu un MacBook, c'était pas un MacBook, c'était un Macintosh au début des années 2000 qui avait pour la première fois, je crois, dépassé le milliard d'opérations par seconde, oui. Et qui avait été d'un coup interdit de commercialisation aux États-Unis. D'ailleurs, Apple avait fait du judo là-dessus et avait retourné ça en montrant sur une publicité un tank et un Apple en disant, vous voyez, tout ça a un impact sur la sécurité nationale. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, le mot de national security, sécurité nationale, est tellement large, oui. que l'acception peut revêtir tout ça. Et là, pour le coup, sur le coup des modèles IA, c'est donc rien de neuf. La surprise à la fois politique et technologique, elle est incroyable. Mais par contre, juste un point, il faut aussi que on arrête l'illusion, parce que j'entends des gens dire maintenant, maintenant il faut tout mettre sur Mistral. Je rappelle, et Dieu sait que j'adore Arthur Mensch, Mistral, oui. etc. Mistral est classé 54e du dernier classement des modèles. Ils ne sont pas dans ce qu'on appelle les modèles frontières. Tous les autres au-dessus de Mistral sont chinois ou américains. Donc quand j'entends maintenant, maintenant il faut tout faire pour que Mistral gagne, non, c'est pas ça la bonne stratégie. Ah. La bonne stratégie, c'est de mettre le paquet sur plein de modèles différents, de s'assurer qu'on travaille au niveau européen et que la France n'a pas son modèle français, l'Allemagne n'a pas son modèle allemand. C'est vraiment un changement de logiciel complet dont je pense
et c'est pas ce
que nos dirigeants actuels sont totalement incapables.
Thomas Grébin.
Moi, je pense qu'il y a deux choses en complément qui sont intéressantes dans la décision de Donald Trump. C'est d'une part, ce qui était un peu l'anomalie, c'est le fait que l'administration américaine avait si peu de contrôle sur ces géants de l'IA. C'est-à-dire que quand on prend les révolutions technologiques précédentes, il y avait quand même un contrôle beaucoup plus fort du Pentagone ou de l'administration américaine sur ces technologies. Or là, vous avez des géants qui voulaient contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur et où l'État américain était quand même relativement loin. Donc là, la première chose, c'est du point de vue américain, il y a quand même une reprise en main, et ça, on peut penser que c'est quand même relativement positif que ce soit l'État qui ait une forme de contrôle face à ces géants privés qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent.
Donc ce que je vous entends, c'est qu'on allait mettre en l'air un système dangereux, et heureusement que le politique... Amilo, là.
En tout cas,
c'est pas ce qu'on entend, hein. C'est intéressant.
En tout cas, du point de vue américain, je pense que quand même, Anthropique, il y avait quand même le dirigeant d'Anthropique qui lui-même disait qu'il faudra à un moment une reprise en main. Donc c'est un peu, il a été servi, si on peut dire. Mais donc ça, c'est un peu du point de vue américain. C'est qu'est-ce que fait la puissance publique face à ces géants privés qui étaient de plus en plus autonomes. Et le deuxième point, c'est nous, Européens. Et c'est vrai que là aussi, il y a un peu une anomalie. Historique, c'est qu'on n'a jamais eu un tel niveau de dépendance. Là aussi, vous reprenez les grandes révolutions technologiques, soit le microprocesseur dans les années 70, le développement d'Internet dans les années 90, les smartphones dans les années 2000, le cloud dans les années 2010.
Etc.,
on n'avait pas une telle dépendance aux États-Unis. Aujourd'hui, on estime que notre déficit commercial numérique, il est autour de 275 milliards, c'est-à-dire presque 1,5% du PIB européen, et puis aurait monté jusqu'à 2% du PIB européen en 2030. Donc on est en train d'avoir une dépendance de plus en plus forte aux États-Unis, et ça veut dire aussi un transfert de richesse de l'Europe vers les États-Unis. Juste un chiffre, ce transfert de richesse au niveau français, ça pourrait représenter en 2030 le budget de l'éducation nationale.
Isabelle, puis...
Oui, je pense que le point sur l'autorégulation aux États-Unis et le fait qu'à un moment donné, il faille en mettre des limites est absolument clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le pouvoir à quelques oligopoles et à quelques patrons qui maîtrisent ces sociétés. Donc ça, c'est effectivement un point clé. Et ces machines, en tous les cas, ces modèles, montrent quand même une puissance absolument incroyable. Et l'alignement, en fait, de ces modèles avec les valeurs démocratiques est un vrai sujet. Et donc, qu'est-ce qui maîtrise cet alignement? Est-ce que c'est effectivement les équipes d'ingénieurs qui travaillent sur les modèles ou c'est un consortium qui travaille avec les États pour déterminer ce qui est possible? Donc, en ce sens,
c'est sujet,
effectivement...
C'est un vrai sujet, l'IA éthique dont on débat en ce moment.
Et c'est d'ailleurs ce que l'Europe a déclaré avec l'IA Act. L'IA Act, c'est exactement ça. C'est-à-dire une régulation qui met des limites et qui n'est pas là pour bloquer, mais qui est là pour encadrer l'innovation. Donc ça, c'est un point clé. Oui. Après, la seule chose, c'est que dans cette décision, et comme on l'a dit déjà, Anthropic apparaissait ou apparaît comme quand même le meilleur élève de la classe. C'est-à-dire qu'il a toujours pris position sur...
Il a refusé de travailler avec le Pentagone, notamment, ce qui fait dire à certains qu'il y a une forme de représailles de Donald Trump vis-à-vis de Dario Amodei.
Il a refusé que ces modèles soient utilisés pour des écoutes de masse aux États-Unis, dans la guerre pour utiliser des armes létales. Donc, il apparaissait comme le meilleur élève de la classe sur ces sujets-là. Il se trouve que dans ses équipes, il a embauché 3 personnes de chez Biden, qui sont des proches conseillers de l'administration Biden. Et donc, on ne peut pas, oui, c'est bien de réguler et de vérifier, mais on ne peut pas se dire que dans cette décision extrêmement brutale de vendredi soir, il n'y ait pas une prise de position politique de Trump.
Rétorsion politique, vous
dites. Rétorsion politique face à cette entreprise qui, clairement, est anti-Trump. Et c'est là où il y a un danger.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis pas sûr, parce que quand on regarde, alors on saura jamais véritablement, mais le fait que ça apparaisse 2 jours avant le G7, que Trump en fait, qui arrivait normalement, il y a 24 heures, il arrivait en position de faiblesse. Ça fait 20 fois qu'il annonce un cessez-le-feu.
Il n'était pas sûr de venir d'ailleurs.
Il était même pas sûr de venir. Là, on est tout heureux qu'il vienne, mais il arrive en position de force. Tout le monde ne sera que à ses pieds pour dire mon Dieu, vous pouvez pas nous faire ça. Sur le sujet d'Amodei, en fait, là, je suis partagé, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme Apple qui, rappelez-vous, avait interdit au FBI l'accès à son iPhone quand un terroriste, je crois, à Los Angeles, il y a quelques années, avait utilisé. Mais je pense que, oui, il y a sûrement un petit peu d'éthique, il y a sûrement aussi beaucoup de marketing, parce qu'aujourd'hui, fait vendre d'être considéré comme le modèle le plus éthique. Je rappelle qu'Anthropic est au cœur de Maven, qui est le système de positionnement et de tasking de l'armée américaine et qui a été utilisé massivement pour la première fois fin février en Iran. Je voudrais juste revenir sur cette histoire de régulation parce qu'il n'y a pas ceux qui régulent avant. Je crois que en fait il y a une grande similarité entre ce que fait la Chine et les États-Unis. Je m'explique. La Chine, comme les États-Unis, laisse émerger des géants. Et ils ont tous les deux, malheureusement la Chine parce que c'est un pays autoritaire et aux États-Unis aussi, des gens dans l'administration qui ont une connaissance extrêmement fine et qui se racontent pas d'histoire sur le véritable niveau de performance de ces modèles. Et une fois qu'ils arrivent, qu'ils ont créé en fait ces mille fleurs, pour prendre une mauvaise référence historique, eh bien, ils commencent à couper des têtes lorsque certaines fleurs soit les dépassent, peut-être pour des raisons de politique, soit parce qu'ils sont trop performants. L'Europe fait véritablement la régulation de la pire qui soit. C'est-à-dire, on régule avant même que notre serre, nos plantes... j'en veux pour preuve cette histoire de Mistral, qui pour moi est dramatique, parce qu'on pense, je suis sûr qu'aujourd'hui on demanderait à 90% des Français qui connaissent le mot Mistral, et je pense que c'est devenu un nom assez commun dans l'opinion publique, ils pensent qu'on est leader mondial. Ce n'est plus du tout le cas. D'ailleurs, Mistral aujourd'hui est en train de s'orienter plutôt vers de l'infrastructure, des data centers, plutôt que les modèles frontières. C'est ça qu'il faut qu'on change en Europe.
Isabelle.
Je suis absolument pas d'accord. Parce que je pense qu'il est absolument essentiel de mettre des contraintes pour innover. Il est absolument essentiel pour que l'innovation progresse dans le bon sens et dans le bon alignement d'une démocratie, d'une protection des consommateurs.
Je ne dis pas l'inverse.
Il est absolument essentiel qu'il y ait un RGPD, il est absolument essentiel qu'il y ait un IA Act et que ces règles, ces garde-fous, et d'ailleurs certains grands exécutifs américains le réclament.
Oui, après avoir créé leur leader.
Il est beaucoup plus sain de mettre des frontières avant pour que l'innovation les prenne intrinsèquement dans leur moteur initial. Plutôt que de...
Je crois que l'histoire est remplie de gens qui étaient...
Plutôt que de faire une censure, a priori.
Mais Isabelle, est-ce que le RGPD n'a pas complètement volé en éclat avec l'émergence, l'explosion de l'IA, qui sont quand même des autoroutes pour envoyer toutes nos datas aux États-Unis, hein, au travers d'Anthropic, au travers de...
Je pense que le RGPD est un élément absolument crucial pour les entreprises françaises et surtout pour la protection des citoyens. Et si vous allez dans la rue et que vous posez la question sur l'utilisation des données à tous les citoyens que vous croisez, ils sont extrêmement soucieux. Et je pense que c'est un élément clé. Et je ne suis absolument pas sûre que ça soit ça qui ait bloqué l'innovation, bien au contraire.
Je voulais qu'on voit un peu les voies et moyens de répondre de l'Europe, Thomas Grébin, dans votre rapport. Alors, on parlait beaucoup d'industrie dans votre rapport. Là, c'est l'industrie du numérique et de la technologie. Mais que peut-on faire pour ne plus être les vassaux des États-Unis en termes numérique? Vaste programme, vous allez me dire, mais il nous reste un petit peu de temps pour le développer.
On peut voir, en tout cas, les parallèles entre l'industrie traditionnelle ou les industries vertes et ce qui est en train de se passer avec la tech. Le premier parallèle qu'on voit, c'est notre discussion. C'est-à-dire qu'en Europe, on réglemente avant d'avoir une politique industrielle. Oui. Donc, c'était le cas sur le véhicule électrique où on avait la réglementation la plus dure du monde sans avoir de politique industrielle, alors que les Chinois, eux, ont développé depuis 25 ans une politique pour développer, pour avoir des véhicules électriques, et ils ont adapté leur législation progressivement face aux avancées industrielles. Et là, on retrouve un peu la même chose. Donc, on a une réglementation qui est très importante, mais on n'a eu aucune politique industrielle, entre guillemets, au niveau de l'IA. Donc, on a en effet des symboles comme Mistral, mais quand vous regardez la chaîne de valeur de l'IA, les différentes strates de l'IA, on est complètement, à plus de 90%, dépendant des États-Unis.
Mais est-ce que c'est pas utopique de se dire qu'on peut avoir toute la chaîne verticale?
C'est justement... On peut peut-être demain, c'est utopique, mais c'est quelque chose qui peut monter.
Faut construire les briques
progressivement. Et le risque, c'est juste d'avoir du packaging souverain, c'est-à-dire que on va dire cette solution est française ou européenne, alors que toute l'infrastructure derrière est américaine. Et donc là, peut y avoir des solutions européennes. Par exemple, le propriétaire de Lidl a commencé à développer un cloud qui pourrait être un cloud européen. Donc certes. Sur les modèles, certes, Mistral est en retard par rapport au modèle de pointe, mais peut-être que si les Européens s'unissaient, on pourrait monter en puissance progressivement. Et donc, en fait, il faut reconquérir progressivement cette chaîne de valeur. Mais le gros risque, c'est qu'aujourd'hui, notamment la France, on soit un producteur d'électricité pour les modèles américains.
C'est ça.
Et donc, si on se souvient de ce que disait Arthur Mensch lors de son audition à l'Assemblée nationale, il disait que quand vous reprenez la chaîne de valeur de l'IA, l'électricité, c'est environ 10%. Et donc, nous, on va fournir cette électricité bon marché parce que c'est, entre guillemets, notre avantage comparatif, mais 90% de la valeur ajoutée sera produite ailleurs et en particulier aux États-Unis.
Isabelle,
en fait, le vrai sujet, à mon avis, c'est pas tant la régulation, c'est effectivement ce push qu'il faut faire sur la politique industrielle. Et ça tient à la politique de financement. On n'a pas en Europe une profondeur de financement qui permet à Arthur Mensch de lever 100 milliards de dollars ou 100 milliards d'euros. C'est ça le nerf de la guerre. C'est comment les Européens vont arriver à un moment donné à se coordonner pour créer des consortiums financiers et industriels. C'est pas le RGPD qui bloque, c'est la profondeur financière. On a les talents, et Arthur Mensch en fait partie, on a les talents qui d'ailleurs pour certains partent aux États-Unis, il nous manque aujourd'hui la capacité financière et une vision stratégique au niveau européen.
Je crois qu'on est devenu le nouveau continent minier de l'IA. C'est-à-dire, chez nous, les gens viennent extraire des talents qu'on produit 1 million d'euros, je crois, pour l'État français directement, un diplômé de Polytechnique. Et il y en a plein à Mistral qu'on vient puiser. Et deux, on vient puiser de l'énergie bon marché. Et comme le disait, comme vous le disiez, aujourd'hui, ça crée très peu de valeur sociétale. Et ça enrichit les fonds émiratis dont on se félicite aujourd'hui à Choose France. Mais il faut aussi voir qu'il y a il y a un aspect évacuation des autres, parce que les autres industries à haute qui demandent beaucoup d'énergie, l'automobile, etc.,
les énergies intensives
se retrouvent en concurrence avec ces gens-là. Je crois que je suis pas du tout d'accord sur le RGPD là. Alors j'en veux pour preuve la cour de la Cour des comptes européenne a fait un rapport là-dessus. Alors on le dit pas parce que c'est un peu le grand succès prétendu de l'Europe. Tout le monde est évidemment pour la vie privée. Mais ce que j'en appelle, c'est de la stratégie. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le RGPD, c'est qu'on a mis la barre tellement haute pour être en conformité sur les règles de vie privée, que qui c'est qui peut se permettre d'être RGPD compliant, c'est les grands. Et qui sont les grands acteurs? C'est les acteurs de la tech. Donc en fait, on a créé une espèce de barrière à l'entrée. À nouveau, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas un alignement, bien au contraire. Mais je rappelle quand même, c'était un vieux cas d'école, Einstein, pacifiste, absolument convaincu, qui avec Szilard envoie cette fameuse lettre à Roosevelt en 1939, oui, en disant c'est aux démocraties d'être leader sur une arme potentiellement épouvantable. Oui. Donc si nous ne sommes pas devant, nous ne pourrons rien réglementer. Juste un point pour qu'est-ce qu'on peut faire. Chaque fois que la BPI met de l'argent dans une société d'IA, entre un tiers et 50% va acheter des GPU de Nvidia. Déjà, essayer de consolider ce qu'achètent Yann LeCun, Arthur Mensch, Eleven Labs, les Polonais, les Allemands, etc. Et potentiellement faire émerger ce qu'on appelle des accélérateurs IA, c'est-à-dire ces nouvelles puces. Si on a une vision entreprise par entreprise, ça vaut pas la peine. Mais si on a une vision globale, ça, c'est de la politique industrielle intelligente. La deuxième chose, c'est effectivement inciter aujourd'hui, c'est entre 3 et 5 ans pour connecter un data center en Europe. Alors certains États américains commencent aussi à mettre des limites. La Virginie a mis un moratoire de 3 ans. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les zones qui sont autour de chez EDF, et je crois EDF le fait, oui, autour des centrales nucléaires, pour faire des connexions en 3 mois? Je rappelle que les 106 milliards ou les 109 milliards annoncés au sommet IA en février 2025, on n'a pas commencé à couler le béton. Et troisième chose, arrêtons nos illusions. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais à force de dire qu'on est les meilleurs, qu'on a les meilleurs modèles, etc., en fait, on n'a pas ce sentiment d'urgence et on se réveille un vendredi soir à 17h21 en se rendant compte qu'on est à poil.
Isabelle.
Oui, je pense que le point sur les semi-conducteurs est un très bon élément, c'est-à-dire que ça fait 15 ans, 20 ans qu'il n'y a pas eu ni de stratégie ni de vision européenne sur ce marché-là. C'était un peu le parent pauvre. Personne ne se... occupé, pardon, de AST électronique. Ouais. Enfin, c'était vraiment pas du tout un sujet. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre. Mais pour faire aussi bien qu'NVIDIA, ça ne se décrète pas. C'est 10, 15 ans. C'est un écosystème qu'il faut bâtir. Donc, c'est effectivement ce point. C'est pas parce qu'on a les machines-outils qui permettent effectivement à NVIDIA de pouvoir produire ces puces qu'on est capable de produire ces puces, parce que c'est du nanomètre. C'est absolument extrêmement compliqué. Donc, il faut non seulement avoir les talents, les machines-outils, et même lorsque TSMC tente de créer une usine aux États-Unis, il n'y arrive pas puisqu'il y a des problèmes de densité, de l'air, etc. Donc, c'est une très, très grande complexité. Donc déjà, commençons par créer un écosystème. Et je suis d'accord avec André, il faut créer des consortiums, il faut rassembler les talents, il faut faire en sorte que tous les acteurs sur ces technologies se rassemblent et travaillent en réseau pour pouvoir petit à petit bâtir l'écosystème. Mais ça ne se fera pas en 2 ans.
Bon, Thomas, quand on écoute effectivement tous les enjeux et les défis absolument majeurs, on se dit qu'il faudra 10, 15, 20 ans pour récupérer le retard, ça semble très compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas jouer plus rapidement avec nos atouts type ASML? Bon, on a l'imprimante, on a la centrale, mais on a aussi l'imprimante en Europe. Donc, est-ce qu'on ne peut pas jouer de tension avec ces entreprises pour se faire respecter aussi par les autres empires?
Non, mais ASML, c'est un atout très important pour l'Europe, mais ça ne suffit pas. De nouveau, quand vous regardez la chaîne de valeur de l'IA au niveau européen, il y a plus de 90% qui appartient à des entreprises étrangères, enfin hors de l'Europe.
Donc pour les 10 à 15 prochaines années...
Il y a un article intéressant de Rogoff, qui était avant chef économiste du FMI, et en fait, il montre que si vous... Enfin, il prend le point que demain, quand vous regarderez la hiérarchie des États d'un point de vue économique, le grand risque pour l'Europe, c'est de jouer en seconde division. C'est-à-dire qu'il y aura les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, peut-être la Corée du Sud ou le Japon qui posséderont l'IA, qui contrôleront une partie de la chaîne de valeur de l'IA. Et puis, vous avez l'Europe. Et donc là, de nouveau, on parlait déjà de ça sur les enjeux industriels, mais on voit bien qu'en fait, peut-être cette décision de vendredi de Donald Trump est une bonne nouvelle, entre guillemets, parce qu'on peut espérer un réveil européen. Mais bon, l'histoire...
Et on l'espère. Bon, ouais. Dernier, très rapidement, question courte, réponse courte. Est-ce que cette claque va réveiller l'Europe? Vous dites oui ou non, Thomas?
Moi, je suis plus pessimiste.
On avait ce débat ce matin sur l'antenne.
On verra très vite. Si on a côté français une attitude comme on l'a fait sur le SCAF, sur le chasseur européen, ouais, et on dit ralliez-vous tous derrière ma bannière blanche et mettez tout l'argent dans Mistral, les Allemands, les Anglais, les Suédois vont rigoler. Si on a véritablement le courage de dire on se donne 3 mois pour faire un Big Bang, comme mon petit désaccord ici avec Isabelle, on met 264 milliards d'euros tous les ans dans la tech américaine, mais ça c'est uniquement le coût direct. Si on voit le coût indirect de cette dépendance de marge plus élevée, c'est beaucoup plus important. Je rappelle que l'Europe, elle a plus de 20 000 milliards d'épargne. Il faut qu'on arrête d'avoir des ministres de l'économie qui promeuvent le livret A. Ouais. C'est là où il faut un véritable choc. Donc soit on a un véritable choc à la fois du marché unique en 3 mois, ou bien on a encore une grande annonce de Madame von der Leyen au 13e étage du Berlaymont. En fait, en fonction de ça, vous aurez la réponse.
Bon. Voilà, Isabelle. André a effectivement raison. Il faut flécher les économies de tous les citoyens européens vers cette nouvelle ère qui est l'ère de l'IA. Et ce qui est aujourd'hui pas possible parce que les actionnaires d'actifs n'ont pas le droit d'investir dans une économie aussi...
Comme dirait Napoléon, les responsabilités, ça ne se reçoit pas, ça se prend.
Allez, ce sera le mot de la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après une courte pause publicitaire. On va continuer à parler IA au sommet du G7 qui s'ouvre aujourd'hui, puisque Dario Amodei comme Sam Altman y seront présents. Et puis on parlera aussi de l'ouverture du salon de la défense Eurosatory à Villepinte, un salon qui dit beaucoup de l'air du temps aussi, le salon de tous les records. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.